Daniel Eisner, Serge Toubiana, bonjour. Donc, respectivement, directrice générale et président d'Unifrance, cette institution qui assure la promotion du cinéma français à travers le monde. On se retrouve enfin en présentiel, 25e édition, après 2 années virtuelles dues à cette pandémie. Merci de me recevoir. En parlant de cette pandémie, est-ce qu'on peut déjà chiffrer, est-ce qu'il y a des statistiques concernant l'impact sur l'industrie cinématographique, notamment le nombre de productions, les surcoûts comme l'engagement éventuellement des référents Covid. Est-ce que vous avez déjà quelques infos à cet égard?
C'est une bonne question, mais elle est très, comment dire, très structurante, parce que pendant cette période de Covid, d'abord, la production n'a pas cessé. Ça, c'est notre point fort en France. Mmh. Tout de suite, le CNC a créé un fonds de garantie, une assurance d'un hauteur de 50 millions d'euros, je crois. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu d'arrêt. Les tournages ont continué, de films, de séries, etc. Donc ça, c'est notre point fort en France, c'est qu'il n'y a pas eu de crise de la production. Après, ça a coûté. L'aide de gouvernement aux salles de cinéma a été importante. Donc, les salles qui ont fermé pendant 300 jours, je crois, comme partout, hein, elles ont été aidées. Donc, il n'y a pas eu de fermeture de salles après le Covid. Il n'y a pas eu de marasme au niveau d'exploitation, même si la fréquentation est retombée à zéro. Mmh. Donc, tout ça coûte aussi à la communauté nationale, bien sûr, en termes de financement. La production repart très fortement, aussi bien au cinéma que dans l'audiovisuel. Effectivement, il y a sur les tournages, il faut faire attention, il a fallu faire attention, donc engager des gens pour veiller à ce que les choses se passent bien sans transmettre le virus. Mais dans l'ensemble, l'effort national a été quand même très fort, très salutaire, puisque le cinéma français reconquiert plus vite, j'allais dire, que d'autres, mais aussi peut-être plus vite que prévu, ses parts de marché sur notre territoire. On a fait une année 2022 assez forte, 152 millions de spectateurs, alors que tout le monde pensait que le cinéma était foutu, que les gens n'iraient plus au cinéma. C'est faux, les gens retournent au cinéma. Et d'abord parce qu'ils ont envie de sortir de chez eux, les jeunes y vont, les films, l'offre est intéressante, culturelle, films américains, films européens, films français, etc., etc. Et puis on a envie de sortir de chez soi, c'est naturel de pas...
Il y a quand même eu un embouteillage après justement ces 300 jours. Et donc fatalement, il y a des frustrations.
Ça, c'est le problème.
Et heureusement, finalement, qu'il y a eu des plateformes, non ?
Moi, je pense que le gros problème qu'il y a eu et qu'on a tous ressenti et qu'on ressent encore, maintenant que le Covid s'éloigne, c'est que beaucoup de films sont restés sur les étagères, ont été achetés, distribués en France sur notre marché, mais aussi vendus à l'étranger. Les vendeurs, les exportateurs français ont fait un travail incroyable. Ils n'ont pas cessé d'y croire. Il faut saluer leur énergie. Donc, il y a trop de films, si vous voulez, sur les étagères. Mmh. Et puis, en France, comme on aime tous les cinémas du monde, on sort énormément de films de tous les pays, en version originale, bon, plus qu'ailleurs. Donc, moi, je crois que le phénomène qui m'inquiète le plus, c'est que chaque mercredi, il y a énormément de films qui sortent et qui se poussent comme les autotamponneuses, quoi. Ils se poussent. Donc, si vous n'allez pas voir le film dans les 10-15 jours qui viennent, vous passez à côté, quoi. Donc, il y a une accélération de tout, mais comme c'est une accélération qui se vit à tous les niveaux de la vie quotidienne, tout le monde, tout va trop vite. C'est peut-être ce qui m'inquiète le plus, moi. C'est qu'il y a trop de films qui ne restent pas assez longtemps sur l'écran et l'un chasse l'autre, quoi. Donc il faut être...
Je parlais des plateformes. Venise les accueille à bras ouverts. Frémo est un petit peu, pour ne pas dire un peu fermé. Est-ce qu'il y a là-bas quelque chose à espérer au niveau du Festival de Cannes?
Je ne peux pas vous donner la réponse, c'est une décision qui appartient au conseil d'administration, dont je fais partie, mais la situation est quand même... c'est plus nuancé que ça, d'abord, parce que je pense que... Parce que les plateformes elles-mêmes évoluent, que d'abord, il y a plusieurs plateformes, il y en a qui sont créées par l'industrie du cinéma elle-même, je veux dire, Disney a créé sa plateforme, etc., etc. Et il y en a qui ont pris l'option forte de miser sur la salle pour la promotion de leurs œuvres. Et Avatar leur donne raison largement. Le succès d'Avatar, c'est un succès des salles de cinéma, en Amérique comme en France, et comme partout dans le monde. Ça va vraiment, ça redonne à la salle le rôle qu'elle a toujours joué, de lieu d'expérimentation, de promotion, d'accueil du public. Donc ça, c'est une option forte qui correspond très bien à l'esprit de la France, hein, de privilégier la sortie en salle. Après, Amazon finance du cinéma et n'est pas hostile à une sortie salle. C'est très important. Donc ça modifie l'équilibre entre les plateformes, entre elles. J'ai pas une analyse plus fine parce que je me suis pas plongé dedans, mais pour l'instant, en France, seul Netflix ne sort pas en salle. Mais dans les autres pays dans le monde, sort à titre expérimental, hein, en Italie par exemple, ou pour une durée assez limitée, il y a des couloirs d'exploitation. Donc cette évolution est quand même intéressante. Il faut être vigilant, il faut suivre ça de près. Et je vois pas, je vois pas pourquoi le festival de Cannes n'ouvrirait pas, dans une certaine mesure, sa programmation en compétition à des films de plateforme qui sortiraient en salle. Voilà, c'est la seule chose que je peux dire.
En parlant d'évolution, Daniela, quand on s'était rencontrés il y a 3 ans, je crois maintenant, on avait parlé des nouveaux territoires qu'Unifrance comptait aborder ou éventuellement consolider les liens, comme l'Amérique du Sud, la Chine. Est-ce qu'avec l'évolution géopolitique, ça a un peu changé aussi le point de vue d'Unifrance, non?
Notamment la Chine, la Chine étant totalement fermée depuis 2 ans, forcément, les films qui sortaient avant, parce qu'il y a quand même un parc d'écrans extrêmement riche et grand, qui est plutôt très intéressant d'ailleurs, évidemment ça s'est arrêté net, hein, donc l'année dernière il y a un film qui est vraiment sorti, c'était Mon Inconnu avec 200 000 entrées, mais c'est tout. Donc là on a des ressorties, hein, comme Les Choristes, il y a Amélie qui va ressortir, donc on verra. Il faut vraiment, je pense, la Chine, là, évidemment, là, ça va, on le sait, ça a changé totalement, donc ouverture totale. On ne sait pas encore, hein, quels vont être nos films qui vont sortir. On regarde tout ça vraiment de très près. On a gardé notre panorama, on fait un panorama en Chine. On a un peu changé, on a un peu réduit. En fait, il fait voyager le cinéma français à travers le pays. On va observer tout ça cette année. On travaille vraiment en proximité, enfin vraiment en échange avec l'Institut français et l'ambassade de France en Chine pour voir, et on a quelqu'un qui est en Chine pour nous, pour justement observer. Maintenant, l'Amérique latine est un pays vraiment important, et le Mexique a fait de beaux entrées avec nos films, de belles entrées avec nos films l'année dernière, donc on est très proche, on y tient, hein, on a les Brésiliens aussi qui sont très en demande à ce qu'on reste proche. C'est l'Argentine est un pays où traditionnellement le cinéma français a toujours bien marché. Alors aujourd'hui c'est compliqué, mais nous souhaitons vraiment rester partenaires de tous ces pays, parce que le Pérou, la Colombie, tout ça avait monté en fait, donc il faut un peu reconquérir. Évidemment aujourd'hui ils sont dans une situation très compliquée. Et il faut aider. Nous, Unifrance, on a vraiment aussi cette vocation-là de, au moment où c'est plus compliqué, de rester là. Hein. Ça, c'est sûr que sur l'Amérique latine, on continue. On a ouvert un bureau au Japon.
Réouvert.
Hein, parce qu'on l'avait. On a, qui est opérationnel, là aussi, ça a pris du temps depuis août, qui va effectivement s'occuper de toute la zone et aussi de la Corée. Du coup, c'est plus facile d'être basé en Asie. Je pense qu'on a un vrai défi à prendre aussi en Corée, etc., pour continuer. Les films sont vendus, les films marchent, mais on a évidemment, là, pour le coup, un cinéma coréen très fort en face. Mais ce qui est plutôt bien, c'est-à-dire que là où le cinéma national marche, normalement, nos films s'en sortent aussi bien. Donc, voilà, donc on a plusieurs zones. Il faut quand même aussi dire que l'Europe, qui reste notre partenaire le plus fort, on le voit dans les chiffres, le pays numéro 1, hein, qui est l'Allemagne en 2022. Nous travaillons là aussi très étroitement avec des collaborations. On fait des rendez-vous avec notre cinéma français à Rome, à Madrid, à Berlin. C'est important en fait parce qu'on ne peut pas... Enfin, il faut aussi bien soigner les pays proches, et n'en parlons pas de la Belgique, où effectivement beaucoup de nos films sortent. Alors, Il est vrai que on peut se dire c'est pas loin, on peut y aller facilement, etc. Il faut qu'on encourage constamment nos artistes dans la promotion qu'ils font en France, en fait, de aussi aller à Bruxelles pour faire la promotion, parce que c'est un pays important pour nous, c'est un pays forcément proche
pour la coproduction
francophone, beaucoup de coproductions. Donc là aussi on a des efforts à faire, et puis il faut vraiment que nos artistes restent très mobilisés. En Belgique aussi la situation n'est pas facile, il y a beaucoup de films qui sortent, il faut faire la différence, et c'est nos artistes qui font quand même souvent la différence.
Il y avait eu le souci il y a 2-3 ans au niveau du cofinancement. Chez nous, fatalement, les aides sont là. Et du coup, la France avait essayé de prendre le contre-pied et essayer de dire non, mais chez nous aussi, il y a moyen d'avoir ces aides financières. Est-ce qu'il n'y avait pas eu finalement une certaine concurrence, style Wallimage, les Tax Shelter, etc.
Il y a une concurrence sur l'attractivité pour les tournages. Ouais. Je crois que c'est ça. La France se mobilise beaucoup. Le CNC en est l'agent. Pour attirer les tournages étrangers en France, les tournages américains entre autres, mais pas que. Et la Belgique fait pareil. Donc c'est une question de. Alors nous, ça nous concerne moins parce que nous, on est plutôt vers l'export. On est complètement sur l'export. Mais c'est vrai que c'est une question qui est économique. C'est-à-dire que attirer des tournages étrangers en France, dans les régions, dans les châteaux, dans les vignes, je ne sais où, dans toutes les régions, les belles régions de France, c'est un enjeu économique local, ça crée de l'emploi, ça crée des ressources, quoi. Donc là, c'est un peu chacun pour soi, quoi. Chaque pays défend sa cause et son attractivité avec des régimes fiscaux avantageux, quoi. Nous, on s'est tenu à l'écart de cela parce que ce n'est pas notre cœur de métier, de savoir-faire. Nous, on est plutôt sur l'exportation des œuvres, cinéma et audiovisuel maintenant, c'est très important. Et on voit bien qu'on a eu raison de fusionner entre les deux secteurs, puisque là, ces rendez-vous de Paris, on voit bien que les acheteurs viennent aussi pour acheter des programmes, des œuvres, animation, documentaire, fiction, série, etc. C'est complètement cohérent. Donc on essaie d'offrir une vision assez plus claire, plus efficace aussi de notre mission première, quoi.
Alors le 12 janvier, Unifrance a décerné son French Cinema Award, un prix que vous avez créé en 2016 pour la personnalité cinéma internationale qui œuvre pour le rayonnement du cinéma français à travers le monde. Et Cocorico, cette année, c'était Virginie Efira. Vous pouvez expliquer un petit peu votre choix?
On en a discuté, Daniela et moi. On avait une liste de noms, hein. On avait une liste, d'ailleurs des noms qui pourraient revenir dans l'année prochaine, pourquoi pas. Et moi, j'étais pour Virginie Efira, mais Daniela aussi, parce qu'elle fait 3 ou 4 films par an en France. Et pas les moindres. Hein. Et surtout, ce que j'aime, c'est sa fille. Elle a une figure magnifique, quoi. D'avoir une très grande actrice, une belle figure aussi. Je trouve qu'elle a une élégance et une beauté incroyable. Et puis elle a accepté avec enthousiasme. Alors que c'est un prix honorifique, c'est pas un prix d'interprétation dans un grand festival ou autre, mais c'est quand même un prix qui pour nous a du sens. Ça veut dire qu'elle est une ambassadrice magnifique du cinéma français et belge, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle est belge. Et je trouve que c'est... Pour nous, d'abord, on a eu énormément de retours très positifs sur cette remise du prix le 12 au ministère de la Culture, en présence de Rima Abdul-Malak, qui nous a accueillis. Et je suis étonné en bien, comme on dit, par les réactions des gens sur Internet. Virginie Efira est non seulement respectée, admirée, adorée par des millions de gens, quoi. Elle incarne très fortement ce que c'est qu'une actrice d'aujourd'hui dans des films très différents où elle est magnifique, quoi.
Alors, une dernière question concernant...
Tu es d'accord ?
Totalement d'accord.
Concernant les deux futurs blockbusters de ce début 2023, Les Trois Mousquetaires et bien entendu le Guillaume Canet, Astérix et Obélix, Jérôme Seydoux avait quelque peu provoqué la discorde avec sa couverture du film français. On ne peut pas vraiment dire que là, en effet, c'est tête bonne à loi, non ?
Ces deux films font partie des films les plus attendus en France. À la fois par moi comme spectateur, Daniela aussi, nous comme on mise beaucoup parce qu'on espère beaucoup en termes de succès populaire en France, mais on pense déjà à l'exportation évidemment, parce qu'on a besoin de locomotives pour que la situation du cinéma français à l'exportation soit meilleure, les chiffres d'entrée dans le monde entier. Et puis je trouve qu'au moins Jérôme Sédoux, il peut provoquer, je le respecte beaucoup, cet industriel du cinéma, c'est qu'il pense et que par rapport à cette idée de reconquérir un public dans les salles, il faut des films populaires avec des grands acteurs, des grandes histoires, etc. Voilà, donc après, il faut que les films soient à la hauteur et on espère qu'ils le seront, bien sûr. Mais c'est une stratégie qui tire le cinéma français vers l'idée d'avoir un public plus large en France et aussi à l'international. Alors, ça n'est pas tout le cinéma français. Il y a aussi un cinéma français plus intime, des films à budget moindre, avec des auteurs différents, des acteurs différents. Moi, je trouve que ce qui m'importe le plus, moi, en tant que cinéphile, ancien critique et président d'Unifrance, c'est que le cinéma français offre tout le temps cette diversité, cette gamme aussi riche qui est quand même notre force. On peut faire un film de Philippe Garrel, on peut faire un film de Louis Garrel, le fils, mais on peut faire aussi un film des Trois Mousquetaires, un remake, parce qu'il y en a eu beaucoup, des Trois Mousquetaires. Si c'est bien, si ça stimule, si ça donne envie, c'est génial.
Un grand merci en tout cas.
Merci.